Le roi de la vase, un film de Conrad Vienne, raconté par René Bizet. Il y avait 3 mois que Johann Strauss avait quitté le domicile des siens. Il était parti un soir de ce rude hiver de 1840, laissant sa femme et ses 5 enfants sans un kreutzer, pour aller vivre avec Émilie Trampus, une belle fille blonde que quelques archiducs avaient mis en faveur parmi les admirateurs du ballet impérial. Johann avait 36 ans. Il avait acquis, d'abord dans le fameux orchestre de Lanor, une réputation de violoniste incomparable, puis comme compositeur, une renommée que ce même de Lanor n'éclipsait point. Il n'y avait pas une grande soirée qu'on ne réclamât sa présence, pas un bal qu'on ne voulût danser au rythme de ses compositions populaires, qu'il exécutait lui-même avec toute la grâce qu'elles exigeaient. C'était le bon temps de Vienne. Une atmosphère facile dans une capitale qui ne demandait qu'à vivre en paix, de la musique légère, parfois un peu mélancolique, parce que le romantisme était de mode, des danses qui réunissaient les couples au cœur débordant d'une tendre sensibilité, des plaisirs en commun qui permettaient d'oublier les tyrannies un peu ridicules de la politique et par-dessus tout une gentillesse nonchalante qui réservait le même souriant accueil aux ennemis d'hier et aux amis de toujours. Strauss aurait pu profiter de la popularité qu'on lui accordait pour s'enrichir. Hélas, les Viennois, s'ils aiment leurs musiciens, ne leur donnent pas la fortune, et de plus, n'était-il pas très bien porté, quand on était artiste, d'être sans pécune. En outre, Johann Strauss pensait que la vie d'un virtuose devait être guidée par le caprice, et ne supportait point que dans son intérieur, on ait besoin de nourriture quotidiennement, ou du moins, qu'on s'efforça de le lui faire comprendre. Fiévreux, inquiet, s'imaginant que le coin du feu n'était pas favorable à l'inspiration, il décida donc de transporter ses pénates chez sa maîtresse, se fiant au hasard, à la chance et autres déesses incertaines, pour fournir à sa femme et à sa progéniture le nécessaire et même peut-être le superflu. En réalité, seul son fils aîné Johann Savani Strauss, qui plus tard devait faire oublier la gloire de son père, était capable d'aider Madame Strauss à faire vivre sa nichée. En cachette, il avait appris tout seul le violon, et malgré l'opposition paternelle, il avait l'intention de composer lui aussi des valses et de faire une carrière de virtuose. Madame Strauss accepta de l'ouvrage de ses connaissances et de ses voisines. Johann Savani gagna quelque argent avec de menues besognes, et dès qu'il était libre, allait travailler chez le professeur Dreschler, un vieux maître de musique que ce gamin de 16 ans émerveillait, mais qui s'entêtait à vouloir lui faire composer de la musique sacrée quand l'élève s'obstinait de suivre une muse plus souriante. Et ce soir-là, tandis qu'il essayait dans le modeste intérieur familial de retrouver sur le piano les motifs d'une valse qu'il avait formée dans sa tête au cours de la journée, Johann Savani Strauss entendit derrière lui des pas furtifs, une faible lumière éclairait la pièce. Le jeune garçon se retourna. Son père était devant lui. « Que venez-vous faire ici ?» lui demanda-t-il durement. « Cherchez quelques affaires. »« Avez-vous vu maman ?»« Non. » La réponse était sèche. Johann Savani, froissé dans ses sentiments filiaux, reprit ses recherches au piano, comme si son père n'eût pas été là. Pourtant, quand il le vit s'emparer de la boîte à violon où repose l'instrument qui lui ferait gagner sa vie, il se leva. « Je vous en prie, père, laissez-moi mon violon. »« Et pourquoi ?»« Je travaille. »« Ah, mon pauvre enfant, tu n'as pas renoncé à ton idée. Au contraire. » Johann regarda son fils dans les yeux, lui prit les mains, l'attira vers lui. « Je devrais t'en vouloir de me désobéir, et je n'en ai pas la force. »« Je te répète une fois encore, Johann, prends garde. Tu ne sais pas ce que sera ta vie. » Si tu ne renonces pas à cet art si plein de duperies et de mensonges, tu verras que tu n'auras pas le droit, fût-ce un seul jour, d'avoir une faiblesse. Tu verras que tu n'auras pas le droit de vieillir. Vienne est une ville adorable, mais ingrate. Elle ne tolère point que celui qui l'amuse pense à une autre qu'à elle. Elle est jalouse de votre bonheur, de vos secrets plaisirs. Si on ne fait pas tout pour la séduire, elle déclare que vous ne savez plus aimer. Mais j'ai 16 ans. J'ai l'avenir. Pas de grands mots. Tu as, tu auras le public. Et le public est exigeant, féroce, sans le vouloir, parce qu'il est ainsi. Mes cheveux commencent à blanchir. Je n'ai plus ni la santé, ni l'ardeur de ma jeunesse. Je n'ai pas 40 ans, et pourtant j'ai du temps travaillé, que je me sens plus là que ne l'était mon père à 60 ans. À qui puis-je m'en prendre sinon à ça ? Il désigna la boîte à violon, soupira, puis voyant que sa bagne restait silencieux, « Enfin, fit-il, suis ton destin. » Il n'en dit pas davantage et se retira doucement comme il était venu, laissant le violon à sa place. 10 ans passés, Johann Strauss est mort. Johann Sabani remplit l'Europe de sa jeune gloire, et de Paris à Moscou, on danse ses valses, on les fredonne, on les murmure comme des aveux. Il a composé des poèmes chantés qui sont repris en chœur dans tous les festins d'étudiants. Il a conquis la jeunesse, il fait rêver les jeunes filles amoureuses et soupirer les vieilles gens qui n'ont plus que des souvenirs. Sa mère l'attend. Elle relit ses lettres qui lui rapportent les succès de son fils à Saint-Pétersbourg. On lui a proposé d'être le chef d'orchestre du tsar. Mais dans son dernier billet, il annonce qu'il ne veut pas accepter, que l'air de Vienne manque à ses poumons et à son cœur. Que devient ma chère Liesel ? Espère-t-elle mon retour avec l'impatience qui m'agite à la pensée que je vais la revoir ? Dans quelques jours, je serai auprès d'elle. Madame Strauss laisse glisser le papier de ses doigts. Liesel n'avait pas pu suivre son penchant. Ses parents, commerçants honorables, ne concevaient point qu'une jeune fille ait pu promettre à un vagabond de l'épouser. Et bien qu'elle ait opposé une résistance douloureuse à leurs ordres, elle avait dû se résigner aux fiançailles banales avec un brave garçon, pour qui l'épicerie n'avait point de mystère. Que dirait Sabani demain ? Son caractère violent, son humeur morose se révolterait en apprenant la nouvelle. Quelle folie s'emparerait de lui ! On est bientôt hors de croire que les poètes ne supportent pas, comme les autres hommes, les désillusions. Ils ont sur le commun cet avantage qu'ils en forment aisément d'autres. Leur cervelle est une sorte de maîtresse de ballet qui ne se lasse point de mettre en scène les étoiles aux gaz aériennes et de leur régler les pas les plus savants. Johann Sabani reçut un choc au cœur lorsqu'il apprit l'involontaire infidélité de Liesel, mais il ne fit ni scène ni scandale. Il prit le chemin du Wienerwald, promena ses pas mélancoliques là où jadis Liesel et lui avaient échangé des mots d'amour, et arriva au Danube qui roulait sous le ciel d'automne une eau bourbeuse et jaunâtre. D'aimables visages se présentèrent devant ses yeux. Des couples invisibles pour d'autres que pour lui tourbillonnèrent autour d'un bosquet d'arbres proches, tandis que le rythme d'une valse chantait dans sa tête enfiévrée. La, 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 la. Il répétait la phrase musicale. Elle exprimait sa tristesse dans son évolution simple, puis sa longueur dans une cadence un peu plus lente. Puis le rythme s'accélérait. C'était comme s'il étourdissait son désespoir. Plus vite encore. Il ne pensait plus à rien. Liesel apparut, s'enfuyait vers l'horizon. Les couples disparaissaient derrière un repli de terrain. La 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 la. Que le soir était beau avec ses grands nuages voyageurs. Que le vent poussait d'un souffle régulier et sûr. Toute la valse était composée. Il revint chez lui à vive allure, prit son violon, la joua. Et comme il fallait bien assister à la soirée que les parents de Liesel donnaient en l'honneur du mariage de leur enfant, ce fut à son amour défunt et à ses fantaisies nouvelles que Johann Strauss fit présent de ce beau Danube bleu, dont par la suite tant de jeunes gens sentimentaux ont bercé leur bien-aimé. C'est du moins ce qu'on raconte. C'est l'histoire que je rapporte. Peut-être n'est-elle pas plus vraie qu'il n'est exact que le Danube est bleu à Vienne. Mais pourquoi et pour qui seraient faites les valses si elles ne mentaient point effrontément comme celles qui les dansent ? René Bizet.